Bonjour. Comment allez-vous depuis l'année dernière? Ça va? On ne s'est pas vu depuis. La semaine passée, nous étions à Hasbrouck, qui vous salue bien. Voilà. Il y en a qui n'étaient pas encore. Hein. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la possibilité que tu nous donnes d'être ensemble ce matin, Seigneur, pour que ton nom soit honoré et glorifié. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que tu nous ouvres le cœur et que tu puisses nous parler. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, donc c'est la suite des deux premiers messages que j'ai fait déjà. Qui sont donc en partie mon témoignage et les leçons bibliques, théologiques, enfin surtout bibliques, que j'ai retenues de ce cheminement avec le Seigneur. Et nous avons vu la dernière fois notamment que la logique de la repentance nous conduit à l'obéissance, mais l'obéissance de la foi, à l'obéissance à une liste de règles, mais l'obéissance à la foi qui est née dans notre cœur et qui est alimentée par ce nouveau cœur que Dieu a mis en nous, par le Saint-Esprit. L'obéissance à la parole de Christ, quand on lit la parole, quand on lit la Bible, mais aussi dans les choses de tous les jours, n'est-ce pas, dans la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous regardons, la façon dont nous faisons des choix dans nos vies. Toutes ces choses sont impactées. Et c'est là où le Seigneur attend notre obéissance. J'avais expliqué aussi comment Brigitte et moi, nous étions fraîchement arrivés à la foi et comment le Seigneur nous a demandé d'abandonner la cigarette. Alors que personne dans l'Église ne nous avait fait de remarques à ce sujet. Mais le Seigneur nous a convaincus très rapidement. Nous avions vu aussi comment le Seigneur nous a guidés pour arrêter un travail qui était valorisant, rémunérateur, mais qui prenait tout notre temps et qui ne glorifiait pas Dieu. En tout cas, pas de la façon dont je le pratiquais. Parce qu'on était donc des vendeurs de papier peint, on était gérant d'une grande surface de papier peint et on faisait un gros chiffre d'affaires. Et des fois, les gens me disaient « Mais tu es un bon vendeur !» Et je disais « Non, je suis un bon menteur. » Je savais ce qu'il fallait dire pour que les clients achètent le bon papier peint. Et le bon papier peint, c'était pas celui qu'il leur fallait. C'était le papier peint dont je savais que j'allais faire le plus de marge dessus. Je vois qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Et souvent, c'est les papiers peints les moins chers. Sachez-le. Mon objectif dans la vie, c'était de réussir. Pour moi, la réussite passait par l'argent. Mon éducation chrétienne interdisait que j'utilise des moyens immoraux pour arriver à mes fins, mais je me rappelle parfaitement le jour où j'ai décidé de m'affranchir de ces barrières éducatives chrétiennes. J'avais décidé que s'il fallait que j'utilise des moyens n'est-ce pas, je les utiliserai. S'il fallait que je marche sur quelqu'un, je le ferai. C'est des décisions qu'on prend de façon très consciente. Parce que ça faisait longtemps que je subissais ma vie. N'est-ce pas, pas une seule fois, je n'avais été en mesure de faire des choix, ni concernant mes études, ni pour mon travail, ni même pour le sport. Et à 20 ans, j'étais dans la vie comme un fétu de paille dans un courant d'eau qui ne maîtrise rien. Et j'en avais assez. J'en avais assez et j'étais prêt à tout pour réussir. Et s'il fallait jouer avec les lignes, eh bien, je le ferais. Et j'ai découvert un jour qu'il y avait une activité qui permettait de très bien gagner sa vie. Ce n'était pas le braquage de banque, mais ça s'en rapproche. C'est ce qu'on appelle le marketing. Donc une façon légale de tromper et de piller les gens. J'ai donc acheté, vous savez, n'est-ce pas, je n'avais pas fait d'études, hein, j'étais bac moins 6, donc j'ai acheté une formation, à l'époque on achetait ça, c'était des classeurs que je recevais à la maison, et je me formais là-dessus, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les cours en ligne, hein, ça s'appelle comment vous savez ? Un MOOC. Vous savez ce que c'est un MOOC ? C'est de l'anglais, hein. Massive Open Online Course. Ça n'existait pas, et donc il fallait commander les classeurs et suivre tout ça, les guides d'apprentissage. Et donc j'étais passionné par ce que je découvrais là, parce que j'apprenais je sentais que j'avais là, sous la main, un outil qui me permettrait d'obtenir du pouvoir sur les autres. Si à l'occasion, quelqu'un peut me chercher un verre d'eau, je serais très heureux. Et je comprenais, n'est-ce pas, comment on pouvait interpeller un potentiel acheteur, puis le prendre par la main, lui donner confiance et l'amener à ce qu'on appelle pudiquement l'acte d'achat. En réalité, le marketing se résume à quelle stratégie je mets en place pour faire tomber le client dans le piège que je lui ai tendu et faire sortir l'argent qu'il a dans sa poche pour la mettre dans la mienne. Avec le marketing, je voyais enfin le moyen de ne plus subir ma vie et de sortir de la spirale d'échecs dans laquelle j'avais toujours vécu. Il me suffisait de bien m'approprier les techniques de persuasion et pan, la fortune serait à moi. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je m'attendais à ce que le Seigneur me parle. Il n'a pas mis longtemps à le faire. J'ai commencé à lire là par la Genèse. Et je suis rapidement arrivé au chapitre 3, à l'endroit où Ève est tentée par le serpent. On va le lire. Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Arrivé au verset 6, j'ai relevé ma tête et je me suis exclamé en moi-même, « Mais c'est Aïda !» Vous connaissez Aïda ? Ce n'est pas une fille. Aïda, ça veut dire, c'est un acronyme utilisé dans le marketing qui signifie attention pour A, intérêt pour le I, désir pour le D, acte ou action pour le A. Et ça marche dans toutes les langues. AIDA, c'est un processus que vous apprenez lorsque vous faites des écoles de commerce et qui est destiné à ce qu'on appelle attirer et convertir. Ce sont les termes qui sont utilisés. Attirer et convertir. Vous avez une quantité de campagnes d'évangélisation qui fonctionnent sur ce mode. Attirer et convertir. En 6 versets, Dieu m'a fait réaliser que la stratégie du diable pour faire chuter l'homme était, depuis lors, un mode de communication universel. Au commencement, la relation entre les hommes et Dieu était une relation directe et sans intention cachée. Après le péché, la communication est devenue biaisée, énigmatique, intentionnelle, stratégique, secrète, et vous pouvez rallonger la liste. En fait, aujourd'hui, et si vous y pensez, vous verrez que vous serez d'accord avec moi, la notion de don même est faussée. Faire un cadeau. Pourquoi ? Parce que personne ne croit que le cadeau qu'on lui fait, c'est un cadeau gratuit, c'est-à-dire un cadeau pour lequel on n'attend aucun retour. N'est-ce pas, tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui. Les psychologues vous diront, mais oui, tu donnes, tu penses que tu donnes gratuitement, mais en fait, le retour émotionnel que tu reçois, c'est ta récompense. Les sociologues vous disent, mais le cadeau, c'est pour l'équilibre social. C'est pour la bonification des sociétés, c'est-à-dire que quand on donne gracieusement, eh bien on incite d'autres à donner aussi, et souvent dans le cadre de la surenchère, c'est-à-dire on donne toujours un peu mieux, n'est-ce pas? Et ça existe même dans nos familles, lorsqu'on nous donne un cadeau, je vais faire un cadeau aussi, et puis on va en rajouter un peu. Et après, on n'a plus d'argent, parce que ça commence à devenir cher. Mais il y a souvent cette idée, n'est-ce pas, de surenchère aujourd'hui, dans le don. Depuis le péché d'Adam et Ève, la relation entre les hommes est entachée par cette surenchère orgueilleuse et ce besoin de réciprocité. C'était comme ça, n'est-ce pas, que le serpent avait parlé à Ève, vous serez comme Dieu. La réciprocité, vous serez pareil. C'est parce que Jésus savait cela qu'il disait, quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Nos dons doivent être aveugles. Et si nous donnons à quelqu'un dans l'église ou ailleurs, eh bien, il faut donner pour que jamais la personne ne sache que c'est nous qui avons donné. Pour que toute la gloire puisse être donnée à Dieu. Un jour, lorsque nous étions en Angleterre, Brigitte et moi, nous avons reçu un don important. Un beau gilet en laine, je pense un laine d'Écosse, très bonne qualité. Et une somme de 500 euros. On n'a jamais su qui c'était. Jamais. On a des doutes, mais on n'a jamais su qui c'était. Et le don gratuit, n'est-ce pas? En fait, ça choque les gens quand on dit on veut donner gratuitement, parce qu'ils n'imaginent pas que ce soit possible. Et je pense que ça choque Dieu aussi. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes choqués? Parce que Dieu a donné, n'est-ce pas? Il a donné gratuitement, sans arrière-pensée. Il n'a pas donné en espérant recevoir quelque chose en retour. Il n'a pas fait ça. Il a donné sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour de la part des hommes. Est-ce que nous savons donner? Donner sans arrière-pensée de son temps, de son argent, ses capacités, ce que nous avons en trop, mais aussi ce qui nous est essentiel. C'est un problème, n'est-ce pas? Quand on donne ce qui est essentiel, c'est qu'on commence à s'appauvrir. Et on calcule très vite, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que Jésus a loué, n'est-ce pas, cette pauvre veuve qui a donné 2 pièces. Il a dit, elle a tout donné. Elle a donné ce qui lui restait pour vivre. Jésus, pour Jésus, donner et se donner, c'était un mode de vie. Quand dans Jean 4, Jésus s'arrête pour la Samaritaine, pour y rencontrer cette femme, pour lui parler du Messie, le texte dit qu'il était midi, qu'il était fatigué, qu'il avait soif. Mais ça n'a pas empêché Jésus de donner de l'amour à cette femme, de lui parler, de lui dire ce qu'elle avait besoin d'entendre. Jésus s'est donné pour toi, pour moi. Alors qu'il était épuisé de marcher sur cette terre au milieu d'hommes et de femmes qui, pour les meilleurs, voulaient profiter de tous les bienfaits miraculeux qu'il pouvait produire et pour les pires, voulaient le confondre par la ruse pour le pousser à la faute et le faire mourir. Jésus a donné pour tout cela. Il s'est donné pour tout cela. Il s'est donné pour toi et pour moi. Le don gratuit existe. C'est le don de Jésus-Christ pour les hommes. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes un cadeau pour nos proches, pour nos familles, pour nos voisins, pour l'Église? Est-ce que nous sommes un don ou est-ce que nous sommes un problème? N'est-ce pas là où est le Seigneur Jésus, nous sommes avec lui. Là où nous sommes, il y a le Seigneur Jésus. Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si nous sommes enfants de Dieu ce matin, là où vous êtes, Jésus est présent. À vos places. Est-ce que c'est le cas? S'il y a quelque chose qui m'est apparu avec force dans mon cheminement avec le Seigneur, c'est que jamais le Seigneur ne m'a demandé d'être une autre personne que celle que j'étais. Il ne m'a pas dit « Dès que tu auras changé, je t'appellerai à mon service. » Jésus appelle des hommes et des femmes à le suivre parce que c'est sa volonté. Et majoritairement, il appelle des gens simples et peu compétents. L'apôtre Paul avait compris ça, n'est-ce pas, quand il s'est adressé aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1:26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne le sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Comme je vous l'avais raconté dans mon premier message, Dieu s'est révélé à moi de façon tellement incroyable que ma seule idée, c'était de tout lâcher, lâcher tout ce que j'étais en train de faire dans ma vie pour le suivre et pour le servir. Et avec Brigitte, on était en fait comme l'apôtre Pierre devant le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il dit « Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi ». C'était exactement notre position. Nous avions quitté notre travail, nous avions quitté notre maison et nous avons suivi Jésus comme Pierre. Et nous étions mais complètement subjugués par le Seigneur Jésus. Mais être subjugué par le Seigneur Jésus, ça ne suffit pas. Pierre s'en est aperçu. Et j'ai dû moi-même comprendre certaines choses en suivant le Seigneur Jésus. Quelques semaines après avoir démissionné de notre poste de co-gérant d'une grande surface de papier peint, ben il a fallu trouver du travail malgré tout, payer les dettes, manger. Au bout d'un certain temps, j'ai trouvé un travail de préparateur de commandes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont ces gens qui préparent les palettes, qui montent les palettes dans les grands dépôts, souvent des supermarchés. Là, c'était un supermarché. Et donc, vous montez les palettes pour ensuite qu'elles soient chargées dans un camion et qu'elles soient livrées dans les différents supermarchés. Ce travail, il se situait à peu près à 600 mètres à vol d'oiseau de mon ancien magasin. Et pour moi, il s'agissait d'encaisser le choc de passer du statut de directeur d'une grande surface de papier peint qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui embauche des intérimaires, des apprentis, qui mange avec son banquier à la maison, au statut d'ouvrier non spécialisé que personne ne regarde en quelques semaines. Tant que jeune croyant, je me souviens, dans mes premières heures dans ce dépôt, au milieu de ces hommes rudes qui travaillent dans des conditions difficiles, ils avaient l'air à l'aise entre eux, mais lorsqu'ils me parlaient, il y avait un juron dans chaque phrase. Et moi, j'essayais de faire bonne figure. J'essayais d'être un témoin du Seigneur Jésus, de répondre tout en restant correct. Mais j'étais de plus en plus mal à l'aise. Et je n'arrivais pas à les aimer. Je n'avais pas la force de les aimer. Je ne savais pas comment les aimer. Je savais qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour leur témoigner l'amour de Christ, mais je n'en étais pas capable. Et j'ai abandonné ce travail avec le sentiment profond d'avoir trahi Jésus. Après seulement quelques semaines, pourtant, j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait pour moi. Et je me pensais prêt à le suivre partout. Mais au milieu de l'adversité, j'ai lamentablement abandonné la partie. C'est une des premières dures leçons que j'ai apprises. Et j'ai compris plus tard, n'est-ce pas, que Dieu ne nous demande pas de jouer la comédie, de faire semblant, mais qu'il veut lui-même former en nous son caractère, le caractère de Christ. Si nous devons changer nos comportements, si nos comportements doivent être modifiés, cela ne peut se faire qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Les disciples suivaient Jésus. mais ils étaient sans puissance, sauf quand Jésus leur donnait. Et Pierre était l'un des plus zélés. Il a essayé d'être le meilleur des disciples de Jésus. Il était entreprenant. Il a presque marché sur l'eau. Il a été avec Jésus sur la montagne où il a voulu s'occuper de l'intendance, n'est-ce pas, lorsqu'il a cherché à dresser 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Ensuite, il a voulu l'empêcher d'aller à la croix. Ensuite, il a voulu le défendre dans le jardin lorsque les soldats du temple sont venus le chercher pour le crucifier. Pierre aimait Jésus. Il l'aimait comme un fou. Et Pierre était omniprésent autour de Jésus. Il était prêt à le suivre partout, jusqu'à la mort. Il y a beaucoup de croyants comme ça dans les églises. Ils aiment Jésus sincèrement. Ils sont prêts à tout pour le servir. Ils sont prêts à défendre Jésus, à défendre la Bible, et parfois même à se battre pour les valeurs judéo-chrétiennes. Mais ils font cela avec un zèle qui n'est pas celui de la foi, mais celui de la reconnaissance. Et on ne peut pas servir Jésus juste avec de la reconnaissance. Mais j'étais comme ça. J'étais extrêmement reconnaissant à Jésus. Terriblement reconnaissant. Et ma devise, c'était plutôt mourir que pécher. N'est-ce pas ? J'étais une sorte de jusqu'au-boutiste pour Jésus. Sauf que j'étais incapable d'aimer. J'étais incapable d'aimer ceux qui étaient différents de moi. J'étais comme les disciples de Jésus qui voulaient commander le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'ils étaient vexés de ce que ces derniers avaient refusé à Jésus le gîte et le couvert alors qu'ils se rendaient à Jérusalem. C'était un problème religieux, n'est-ce pas ? Les Samaritains adorent sur le mont Garizim, pas à Jérusalem. On ne te donnera pas le gîte à cause de ça. Il y a beaucoup de situations de persécution dans le monde qui sont liées à ce genre de choses-là. En entendant les disciples se mettre en colère, Jésus s'est tourné vers eux pour les reprendre très sévèrement. Et il leur a dit une phrase terrible. « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Lui, il savait. Lui, il le savait. Je marchais avec Jésus comme les disciples marchaient avec Jésus. Je le connaissais de mieux en mieux par la lecture de la Bible. Ses paroles me devenaient familières. Mais si je connaissais l'homme, Jésus, je n'avais pas encore vraiment rencontré le Messie, le Christ. Pourtant, j'étais plongé dans la Bible. J'étais plongé dans les livres. Il m'arrivait d'avoir 5 livres en même temps sur la table de nuit que je lisais. La parole devenait vivante. Quand je ne comprenais pas un texte, je priais, n'est-ce pas, selon Marc 11:24, demandant au Seigneur l'explication. Et le Seigneur à plusieurs reprises m'a répondu. Alors je me précipitais sur les commentaires bibliques pour vérifier si ce que j'avais reçu était bien du Seigneur. Et très souvent, c'était juste. Avant de lire les commentaires bibliques, essayez de prier et de comprendre la parole de Dieu par vous-même. Et vous vérifiez ensuite si c'est vrai. Mais pas d'abord. Par défaut, j'ai fait de nombreux métiers. J'étais employé de restaurant, balayeur de rue, monteur de tribune, employé de mairie, éducateur, formateur, conseiller en insertion professionnelle. J'ai travaillé dans les œuvres chrétiennes, j'ai créé des entreprises et aujourd'hui je suis maraîcher. Je me souviens, lorsque nous sommes rendus en Angleterre pour débuter notre formation biblique, nous avons été reçus par un des enseignants, et quand il a entendu la liste des métiers, qui était plus courte que celle que je viens de vous dire, il s'est exclamé et il m'a dit « Mais tu es un jack of all trades and master of none ». Littéralement, ça veut dire « Tu es un touche-à-tout, mais spécialiste en rien ». J'avoue que ça ne m'a pas fait plaisir. Bon, c'est une expression anglaise qui n'a pas de connotation négative, mais à l'époque, je ne l'ai pas bien pris, en fait. Et j'ai longtemps refusé ce statut. Parce que si j'étais touche-à-tout, c'était bien indépendamment de ma volonté. J'en avais assez d'être un touche-à-tout. Je voulais être quelqu'un reconnu pour une qualité particulière, comme la plupart des gens, souvent. Et lorsque le Seigneur m'a touché, je voulais servir le Seigneur avec un certain ministère. Je ne sais pas trop comment ça se passait dans ma tête, mais en tout cas, je n'avais pas envie d'être un touche-à-tout. Et donc, j'avais renoncé à la richesse, à l'ascension sociale dans le monde. Mais dans l'Église, je voulais que le Seigneur sache qu'il pouvait compter sur moi, comme Pierre voulait compter pour le Seigneur. J'étais comme Pierre, en fait. On peut repérer chez Pierre trois étapes dans sa marche avec le Seigneur Jésus. La première, c'est tout au début du ministère de Jésus, quand Jésus l'interpelle avec son frère André et lui demande de le suivre une première fois. La deuxième, c'est quand Jésus annonce aux disciples qu'il va les laisser et qu'ils ne peuvent pas le suivre là où il doit aller, c'est-à-dire à la croix. Puis la dernière étape, qui est aussi le deuxième appel de Pierre à suivre Jésus, après la résurrection, lorsqu'il demande par trois fois « M'aimes-tu ?», eh bien à la fin, il lui dit « Suis-moi ». Donc, trois étapes, « Suis-moi, ne me suis pas et suis-moi ». J'aimerais m'arrêter à la deuxième étape, qui est l'étape qui va marquer le reniement de Pierre, où il va jurer, n'est-ce pas, quand il sera reconnu par une femme dans la cour, ne jamais avoir côtoyé Jésus. Mais il va jurer de façon absolue, non, il le dit avec des imprécations, que jamais, jamais, jamais il n'a connu Jésus. On lit ça dans Jean 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit... Non, pardon, ça c'est la deuxième... Donc, quand je vous parlais de cette deuxième étape, donc c'est Jean 13, 36. Simon-Pierre dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Pierre pose cette question. « Pourquoi je ne peux te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » La question de Pierre... était pour moi une réalité qui prenait forme à mesure que j'avançais dans la vie avec le Seigneur. J'étais prêt à me lancer pour le Seigneur, mais en même temps, je ne me sentais pas capable de le suivre. Durant la formation biblique, nous sommes rentrés d'Angleterre pour assister à une convention qui avait lieu dans les Alpes. Il y avait là trois orateurs, dont Norman Mitten, que certains d'entre vous connaissent. Le lieu d'embarquement dans le ferry se faisait à flanc de falaise. Le ferry avait déployé sa rampe d'accès et nous étions en voiture et donc nous avancions en pente, comme ça, vers le ferry. Et quand soudainement la file de voitures s'est arrêtée. Et nous, avec notre véhicule, nous nous sommes retrouvés sur cette rampe d'embarquement, mais juste au-dessus de l'eau. Et en dessous, il y avait un vide qui me paraissait absolument vertigineux. Et je ne sais pas combien de temps on était sur... Je ne me rappelle plus combien de temps ça a duré. Mais ça m'a suffi pour prendre conscience de l'impossibilité de réchapper à la mort au cas où cette rampe devait céder. Et j'ai commencé à avoir peur. Mais vraiment peur. En silence. Parce qu'évidemment... Il ne s'agissait pas pour moi de communiquer ma peur aux enfants, à mon épouse. Mais là, c'était comme si le Seigneur me demandait « Et maintenant, si tu mourais maintenant ?» Et la réponse était claire et nette. Je n'étais pas prêt. C'est pas qu'il y avait des gros péchés, il y avait des trucs. Mais je n'étais juste pas prêt à mourir là, maintenant. Nous sommes entrés dans ce bateau et nous sommes arrivés sur le lieu de la convention. Mais j'étais toujours très mal. Il y avait en moi ce malaise qui ne partait pas. J'étais torturé intérieurement, je priais et il fallait absolument que le Seigneur fasse quelque chose. Alors je me rappelle avec Brigitte, nous avons prié et nous avons convenu que si à la réunion du soir, il y avait un appel public pour se lever, eh bien nous irions. Sachez qu'il y avait peu de chances pour que cet appel public ait lieu. Parce que c'est Norman Mitten qui prêchait ce soir-là, et Norman Mitten ne fait pour ainsi dire jamais d'appel public. Mais ce soir-là, il en a fait un. Et je me souviens qu'avec Brigitte, mais je pense que j'étais bien avant elle, parce que je me suis précipité, nous nous sommes levés d'un bond de nos chaises pour aller à l'avant et on a prié pour nous. Il ne s'est rien passé de spécial. Il n'y a pas eu de guili-guili, il n'y a pas eu de quoi que ce soit de particulier. Mais ce soir-là, la paix a commencé à s'installer en moi. Et depuis, il ne m'a jamais quitté. Pierre a trahi parce qu'il était confronté à sa peur, la peur ultime, la peur de la mort. Tous ceux qui ont peur de mourir vont trahir Jésus. Si le problème de la mort n'est pas réglé, la trahison est inévitable. Et trahir Jésus, c'était ma hantise. La reconnaissance que l'on éprouve pour le Seigneur même s'il est aussi forte que celle de Pierre ou celle que moi je pouvais ressentir, je peux ressentir encore aujourd'hui, à l'égard de la grâce de Dieu, ne suffit pas pour résister face à la terreur, face à la mort. Je répète, la reconnaissance absolue, la plus grande que nous pouvons avoir pour le Seigneur Jésus, ne suffit pas pour résister face à la terreur et face à la mort. Jésus avait averti Pierre en lui disant « Maintenant, Pierre, tu ne peux pas me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard et tu donneras ta vie pour moi. » On ne peut pas donner sa vie à Jésus. Souvent, on entend ça, n'est-ce pas ? « J'ai donné ma vie à Jésus. » On ne peut pas donner sa vie à Jésus avant que Jésus nous ait d'abord donné sa vie. Parfois, les gens disent ça. J'ai donné ma vie à Jésus et quand on les voit, on se demande ce qu'ils ont donné. Est-ce qu'on a juste donné le fardeau qui était trop lourd, nos difficultés et le reste ? Nos maisons, nos voitures, nos familles, nos épouses, notre temps. Qu'est-ce qu'on a donné ? La persévérance de la foi repose complètement sur le fait que Christ a donné. Christ nous a donné sa vie gratuitement et sans demande de contrepartie, afin que nous puissions à notre tour lui donner la nôtre librement et sans condition. Bien sûr, la reconnaissance est immense, mais elle n'est pas le moteur de la foi. Et si la foi de Pierre n'a finalement pas défailli, c'est parce que le Seigneur Jésus s'était engagé à prier pour lui. Parce qu'il l'aimait, Pierre. Et il fait la même chose pour nous, parce qu'il nous aime. Pierre a rencontré Jésus après la résurrection. C'est cette troisième étape. Et lors de cette rencontre, il a eu cet entretien avec le Seigneur. Après Jean 21, verset 14. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Et lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et il dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Notez que Jésus n'appelle plus Simon Pierre. N'est-ce pas ? Il n'est plus le roc. Ce que Pierre a découvert sur lui-même l'a brisé. Et Jésus lui pose cette question, « M'aimes-tu plus que tes amis qui sont là ?» Inévitablement, Pierre s'est souvenu de son reniement à trois reprises avec cette question, n'est-ce pas ? Parce que les autres n'ont pas renié. Bon, ils ne sont pas non plus allés aussi loin que Pierre a été, mais ils n'ont pas renié Jésus. Mais je ne pense pas que Jésus voulait que Pierre se sente mal, bien au contraire. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux, les petits. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Jésus n'est pas en train de donner une leçon à Pierre. Il l'exhorte à devenir le bon pasteur, le bon berger. Pour les agneaux, pour les brebis qu'il lui laisse. Et quand il fait ça, il lui tend la main. Jésus a montré à Pierre ce qu'était un véritable berger qui aime ses brebis au risque de sa propre vie. N'est-ce pas, Jésus, en fait, à la résurrection, il s'est montré d'abord à Pierre. D'abord à Pierre. C'est l'apôtre Paul qui nous le révèle, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15, 5, puis Jésus, c'est d'abord, enfin, il faut le lire, j'ai pas la référence, mais c'est 1 Corinthiens 15, 5, où Paul dit que Jésus s'est d'abord montré à Pierre, puis aux autres disciples. Et dans Marc 16, 7, vous lisez les paroles de l'ange aux deux Marie qui étaient là. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire aux disciples et à Pierre. Il n'a pas mis Pierre avec les disciples. Il a fait la séparation à Pierre. N'est-ce pas, c'est comme si Jésus disait à Pierre, en essayant de travailler pour moi avec tes propres forces, tu as failli, tu as été en échec et tu m'as renié. Désormais, toi-même, tu vas montrer ton amour pour moi en me laissant travailler au travers de toi. Bien-aimé, on ne peut pas travailler pour Dieu. On peut seulement travailler avec Dieu. N'est-ce pas? C'est seulement à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, que Pierre est entré pleinement dans la réalisation du ministère que Jésus avait en préparation pour lui. Je vous lis, pour terminer, simplement l'entame du discours de Pierre. Acte 2, 14. Alors Pierre se présenta avec les onze, et il va la voir et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pour que Pierre en arrive là, c'est-à-dire qu'il puisse se lever publiquement, sans avoir la crainte des hommes, n'est-ce pas? C'est ce dont tu nous as parlé ce matin. La peur des hommes, c'est la peur que j'avais moi-même. Eh bien, il a fallu 3 ans pour arriver là. C'est le temps de la conversion de Pierre. N'est-ce pas, souvent on veut réduire notre conversion à 10 minutes de prière dans un coin avec un pasteur ou un frère. Mais la conversion, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Il m'a moi-même fallu des années pour que je puisse dire « Il est venu ». C'est pas que le Seigneur me méprisait avant, il m'a parlé avant. J'ai reçu plein de choses spirituelles avant. Mais à un moment, j'ai pu dire, il est venu. Et n'est-ce pas, c'est ce qui importe réellement, c'est que cette certitude dans notre cœur. Est-ce que nous avons entendu le Seigneur nous parler ce matin? Est-ce que nous essayons de vivre pour Dieu? Ce matin, où est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu vivre en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour nous aussi, pour vous, pour moi. C'est la condition de la persévérance, de la foi. Que le Seigneur vous bénisse.